Bonjour, Marco, compte à rebours. Tu dois d'abord cesser de vouloir à tout vent. Laisse l'infini te remuer. Chuang Tzu. Vous vous rappelez de Chuang Tzu, on en a parlé ici. C'est une émission de contes. Contes à rebours, normal, d'histoire. Et on parle de tout un tas de choses. Et on a, il y a quelques mois, commencé avec les mythes grecs. Qu'est-ce qu'on a vu ? La création du monde.
Oui, oui.
C'est pas rien. Bon, on va pas tout reprendre, hein. Parce que là, on va continuer, en fait. On va continuer. Alors, mais quand même, qu'y a-t-il d'important à se rappeler ? Tout commence avec Chaos. Et d'ailleurs, continue avec lui, puisque c'est l'arrière-plan de toute chose. Chaos. Béance primordiale. Éternelle. Infinie. Eh bien, aucune entité créatrice ne va mettre de l'ordre dans tout ça. Non, tout simplement, Eros va donner une impulsion, un élan, celui de l'attraction, de l'attirance, de la curiosité, du désir. Donc, un mouvement est donné duquel va naître toute chose. La Terre, d'abord Gaïa, le ciel, attraction encore, ils s'unissent, donnent naissance, se séparent, vous rappelez la castration d'Uranos. Et de là vont naître les titans, les cyclopes, les hécatonchires. Cronos, le roi des titans qui avale ses enfants, et Zeus qui le fait vomir. Et puis la guerre qui s'ensuit, et puis la guerre après avec les géants, et puis Typhon. Ouf, mais beaucoup d'agitation, me direz-vous, depuis que Chaos a commencé à s'organiser. Oui, mais le Big Bang, les dinosaures, les volcans, ça n'a jamais été de tout repos. Donc, on est au moment où les 12 Olympiens et leurs alliés ont vaincu. Après, on n'a pas trop parlé des hommes un peu, Prométhée, Épiméthée, des titans, des fils de titans qui aident les hommes. Mais au fond, ce sont les dieux qui sont intéressants car ils sont les hommes, dans toutes leurs facettes, archétypales, et démesurés, certes, mais toutes leurs aventures sont notre aventure intérieure. On ne comprend rien aux dieux si on ne les voit pas comme notre monde intérieur. La joie, la colère, l'amour, le désir, tous nos mouvements intérieurs sont considérés comme des dieux à connaître et à honorer. En ce sens, un culte à un dieu est avant tout faire résonner la part de nous-mêmes qui lui correspond. Reconnaître la sagesse en soi, c'est Athéna. Prendre soin de son nid, c'est Hestia. Et Dionysos dans tout ça, puisque c'est une émission sur Dionysos. C'est un dieu à part dans le panthéon grec, nous dit Jean-Pierre Vernant. C'est un dieu errant, vagabond, un dieu de nulle part et de partout. Il représente, suivant la formule de Louis Gernet, parmi les dieux grecs, la figure de l'autre, de ce qui est différent, déroutant, déconcertant, anomique. Il est aussi, comme Marcel Détienne l'a écrit, un dieu épidémique, comme une maladie contagieuse quand il fait éruption dans quelque endroit où il est méconnu, à peine arrivé, il s'impose, et son culte, comme un flot, se répand. Errant et stable, Dieu proche des hommes qui institue avec eux des contacts d'un type différent de celui qui prévaut en général en Grèce, un rapport beaucoup plus intime, plus personnalisé, plus proche. Dionysos établit avec son dévot une sorte de relation de face à face. Il plonge son regard dans celui de son dévot et son dévot lui-même fixe ses yeux, hypnotisés sur la figure, le masque de Dionysos. En même temps qu'existe chez lui cette proximité avec les hommes, il est peut-être le dieu le plus éloigné des humains, le plus inaccessible et mystérieux, celui qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas ranger dans un cadre. On peut dire d'Aphrodite qu'elle est la déesse de l'amour, d'Athéna qu'elle est la déesse du savoir, d'Héphaïstos qu'il est un dieu artisan, forgeron. Dionysos, lui, on ne peut l'enfermer décidément dans une case. Il est à la fois dans toutes et dans aucune. À tel point que pendant longtemps, il a été considéré comme une divinité importée. Récemment, nombre d'érudits refusaient de lui voir sa place parmi les 12 Olympiens. Pourtant, récemment, on a décrypté une plaquette mycénienne, c'est-à-dire d'une époque très très antique, parmi les 12, depuis la plus haute antiquité, il y avait bel et bien Dionysos. Alors, le voilà qui est là. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Beaucoup de choses sûrement, mais on va se contenter aujourd'hui de voir ce qui s'est passé lorsque il est revenu à Thèbes. Il faut commencer cette histoire peut-être très vite par parler d'Europe. Europe, ouais. C'est une fille tellement belle que Zeus en tombe amoureux, une fois de plus. Il apparaît, il sort de l'eau, elle est devant la mer. Il sort de l'eau comme un grand taureau blanc avec des grandes cornes. Et il est si doux qu'elle monte sur son dos et qu'il l'emmène. Vous vous rappelez de cette affaire? Elle finit en Crète. Bon, elle s'unit à Zeus, il se passera beaucoup de choses, mais son frère, sa mère vont partir à la recherche d'Europe. Mais en Crète, elle est enfermée sous la garde d'un géant de bronze, elle ne peut pas en sortir. Et eux, qui la cherchent, ils vont finir par créer des villes, fonder des villes un peu partout, comme Thèbes. Et Cadmos crée la ville de Thèbes et il s'unit avec Harmonie et de une déesse, de l'union avec cette déesse est née Sémélé. Et c'est au moment où Sémélé, une fois de plus, se fait remarquer par Zeus que commence l'histoire de Dionysos. Commence l'histoire de Dionysos. Avec elle, Zeus, une fois de plus lui, va entretenir des relations, mais non pas d'un jour, mais durables. Or, cette Sémélé qui voit Zeus s'étendre à côté d'elle chaque nuit sous forme humaine, mais qui sait qu'il s'agit de Zeus, souhaite que le dieu lui apparaisse en personne dans tout son éclat, dans sa majesté de souverain des bienheureux immortels. Certains disent que c'est Héra, la femme jalouse de Zeus, qui lui a soufflé à l'oreille. Bien entendu, pour les humains, même si les dieux viennent quelquefois assister à leurs noces, la prétention que ceux-ci se présentent à leurs yeux dévoilés comme le feraient des partenaires mortels n'est pas sans danger. Quand Zeus cède à la prière de Sémélé et qu'il apparaît dans sa splendeur foudroyante, Sémélé est consumée par la luminosité et le flamboiement. L'éclat divin de celui qui est son amant la brûle. Mais elle est déjà enceinte d'un enfant de Zeus, Dionysos justement. Zeus n'hésite pas une seconde. Il enlève du corps de Sémélé qui est en train de se consumer le petit Dionysos. Il se fait une entaille dans la cuisse, il s'ouvre la cuisse et il plonge le petit Dionysos et referme. C'est à ce moment-là un fœtus de 6 mois. Ainsi Dionysos sera doublement le fils de Zeus. Il sera le 2 fois né. Le moment venu, Zeus rouvre sa cuisse et le petit Dionysos en sort comme il a été extrait du ventre de Sémélé. L'enfant est étrange, hors norme du point de vue divin, puisqu'il est à la fois le fils d'une mortelle et le fils de Zeus dans tout son éclat. Il est bizarre puisqu'il a été nourri en partie dans le ventre d'une femme et en partie dans la cuisse de Jupiter, la cuisse de Zeus. Et Dionysos aura à lutter toute sa vie, presque, contre la jalousie tenace d'Héra qui ne pardonne pas facilement à Zeus ses fredaines et qui en veut toujours aux fruits de ses amours clandestines. Un des grands soins de Zeus, c'est de soustraire Dionysos au regard d'Héra, de le confier à des nourrices qui le cachent. Et à peine sera-t-il un peu grand qu'il va lui aussi partir, vagabonder, et se trouver très souvent l'objet de persécutions de la part de personnages bien installés chez eux. En particulier, il lui arrive, alors qu'il est encore tout jeune, de débarquer en Thrace. À sa suite, un cortège de jeunes bacchantes. Le roi du pays, Lycurge, voit d'un très mauvais œil arriver ce jeune étranger, dont on ne sait pas très bien d'où il vient, qui prétend être un dieu. Et ces jeunes femmes, qui délirent comme des adeptes fanatiques d'une divinité nouvelle. Lycurge fait arrêter les bacchantes et les jette en prison. Déjà, le pouvoir de Dionysos suffit à les faire libérer. Lycurge poursuit le dieu et le force à s'enfuir. Divinité ambiguë, équivoque dans son aspect féminin, Dionysos meurt de peur durant la poursuite. Enfin, il se jette à l'eau, échappant de justesse à Lycurge. C'est la déesse Thétis, la future mère d'Achille, qui dans les profondeurs marines le cache pendant un certain temps. Quand il sort de là, après cette espèce d'initiation clandestine, il disparaît de Grèce et passe en Asie. C'est la grande conquête de l'Asie. Il parcourt tous les territoires de l'Asie avec des armées de fidèles, surtout des femmes qui n'ont pas les armes classiques du guerrier. Elles combattent à coups de tirse, c'est-à-dire avec de grandes tiges végétales pointues sur lesquelles on fixe des pommes de pin et qui ont des pouvoirs surnaturels. Dionysos et ses sectateurs mettent en fuite toutes les armées qui s'élancent contre lui pour bloquer son avance. Il parcourt l'Asie en vainqueur. Puis le dieu s'en revient à Grèce. Ici intervient son retour à Thèbes. Lui, il les rend. Le petit enfant poursuivi par la haine d'une marâtre, le jeune dieu obligé de se jeter à l'eau, de se cacher dans les profondeurs marines pour éviter la colère d'un roi thrace, le voici adulte qui revient à Thèbes. Oui, parce que c'est de là qu'il vient. Il arrive au moment où Penthée, le fils de sa tante Agavé, sœur de Sémélée, est roi de Thèbes. Sémélée est morte. Agavé a épousé un des cinq semés, Échion. Alors, je n'en ai pas parlé, mais les semées sont les dents d'un dragon qui gardait une fontaine, qui a été tué, ont été semées dans la terre de Thèbes, et ces semées sont les premiers habitants qui vont s'unir avec ceux qui venaient d'Asie. Échion, un des cinq semées, a épousé Agavé. Il est mort après lui avoir fait un fils. Ce rejeton tient son titre de roi de son grand-père maternel, Cadmos, toujours vivant mais trop vieux pour régner. Il a hérité aussi d'Échion son acquaintance avec la terre thébaine, son enracinement local, son tempérament violent, l'intransigeance et la superbe du soldat. Dans cette ville de Thèbes, qui est comme un modèle de cité grecque archaïque, Dionysos arrive déguisé. Il ne se présente pas comme le dieu Dionysos, mais comme le prêtre du dieu, prêtre ambulant, habillé en femme. Il porte les cheveux longs sur le dos, il a tout du métèque oriental, avec des yeux sombres, l'air séducteur, beau parleur, tout ce qui peut déranger, hérisser le sommet du sol de Thèbes, Penthée. Tous deux sont à peu près du même âge. Penthée est un tout jeune roi, de même, ce soi-disant prêtre est un tout jeune dieu. Autour de ce prêtre gravite toute une bande de jeunes femmes et plus âgées qui sont des Lydiennes, c'est-à-dire des femmes d'Orient. L'Orient comme type physique, comme façon d'être. Dans les rues de Thèbes, elles font du vacarme, elles s'assoient, mangent et dorment en plein air. Penthée voit cela et entre en fureur. Que fait ici cette bande d'errants? Il veut les chasser. Toutes les matrones tibétaines Dionysos les rend folles. Il ne pardonne pas aux sœurs de sa mère, aux filles de Cadmos et en particulier à Agave d'avoir prétendu que Sémélée n'avait jamais eu de rapport avec Zeus, qu'elle était une hystérique qui a eu des amours, on ne sait trop avec qui, qu'elle était morte dans un incendie en raison de son imprudence et que si elle avait eu un fils, il avait disparu. De toute façon, il ne pouvait être celui de Zeus. Toute cette partie de la saga familiale que représentait Sémélée, le fait qu'elle était restée en rapport avec le divin, même si sa faute avait été de souhaiter ce rapport trop étroit, les Thébains le nient. Ils y voient des contes à dormir debout. Aussi, Dionysos entend introduire un ferment qui ouvre une dimension nouvelle dans l'existence quotidienne de tout un chacun. Pour cela, il doit rendre folles les femmes de Thèbes. Ces matrones, solidement installées dans leur statut d'épouse et de mère, et dont le genre de vie est aux antipodes des Lydiennes qui composent la suite de Dionysos. Ce sont ces Thébaines que le dieu a affolées de son délire. Elles abandonnent leurs enfants. Laissent là leurs travaux ménagers. Elles quittent leur mari et s'en vont dans les montagnes, dans les terres en friche, dans les bois. Là, elles se promènent dans des tenues étonnantes pour des dames pleines de dignité. Elles se livrent à toutes sortes de folies auxquelles les paysans assistent avec des pensées mélangées, à la fois stupéfaits, admiratifs et scandalisés. Penthée, le roi, est mis au courant. Sa colère redouble. Il se tourne pour commencer contre les fidèles du dieu, les suivantes dévotes du dieu, tenues pour responsables du désordre féminin qui s'est répandu dans la ville. Il ordonne à sa police de mettre la main sur toutes ces Lydiennes ferventes du nouveau culte et les jeter en prison. Ainsi font les préposés à la discipline urbaine. À peine ont-elles été mises en prison que Dionysos les délivre par magie. Les revoici de nouveau à chanter, à danser dans les rues, à faire claquer leurs crotales, à faire du bruit. Penthée décide de s'attaquer à ce prêtre itinérant, ce mendiant séducteur, et l'ordonne que l'on l'arrête, qu'on le charge de fer, qu'on l'enferme dans les écuries royales avec le bétail de bovins et de chevaux. Le prêtre est amené. Sans la moindre résistance, toujours souriant, toujours calme, un peu ironique et se laissant faire. On l'emprisonne dans les écuries royales. Penthée pense que l'affaire est réglée et donne à ses hommes la consigne de s'équiper pour une expédition militaire, de partir en campagne pour chasser et ramener toutes les femmes qui se livrent là-bas à leurs excès. Les soldats se mettent en colonne par quatre. Ils quittent la ville pour se répandre dans les champs et les bois et y cerner le groupe des femmes. Pendant ce temps, Dionysos est dans son écurie. Mais tout d'un coup, ses fers tombent. Et le palais royal s'enflamme. Les murs s'écroulent et lui sort indemne. Penthée, le roi, est fortement commotionné, d'autant plus qu'au moment où ces événements se produisent et où il voit son palais se disloquer, soudain, le même prêtre apparaît devant lui, toujours souriant, indemne, impeccablement mal vêtu, qui le regarde. Arrivent ses capitaines, sanguinolents, décoiffés, armure cassée. Que vous est-il arrivé? On s'explique, comme au rapport. Ces femmes... Tant qu'on les a laissées tranquilles, elles semblaient nager dans le bonheur. Elles n'étaient pas agressives ni menaçantes. Au contraire, tout était en elles, entre elles et autour d'elles, dans les prés et dans les forêts d'une merveilleuse douceur. On les voyait prendre dans leurs bras les petits, des animaux, toutes espèces confondues, et les nourrir au sein comme leurs propres enfants, sans que jamais les bêtes sauvages qu'elles manipulaient leur fassent le moindre mal. Selon ce qu'affirmaient les paysans et ce qu'ont cru voir aussi les soldats, elles vivaient comme dans un autre monde, d'harmonie parfaite retrouvée entre tous les êtres vivants, hommes et bêtes mêlés ensemble, animaux, sauvages, prédateurs, carnassiers, réconciliés avec leur proie, les côtoyant, tous s'égayant, d'un même cœur, frontières abolies, dans l'amitié et la paix. La terre elle-même se mettait à l'unisson. Du sol à peine frappé d'une tierce, jaillissaient des fontaines d'eau pure, de lait, de vin. L'âge d'or revenu. Mais, sitôt les soldats apparus, dès que la violence guerrière s'est exercée contre elle, alors ces femmes angéliques sont devenues des furies meurtrières. Avec leurs tirses, de nouveau, elles se sont ruées sur les soldats. Elles ont enfoncé leurs rangs. Elles les ont frappés, elles les ont tués. Cela a été une débandade complète. Victoire de la douceur sur la violence. Des femmes sur les hommes, de la campagne sauvage sur l'ordre civique. Penté apprend cette déroute alors que Dionysos se tient souriant devant lui. Penté incarne l'homme grec dans un de ses aspects majeurs, convaincu que ce qui compte, c'est une certaine forme aristocratique de tenue, de contrôle de soi, de capacité de raisonner. Et encore ce sentiment qu'on se donne à soi-même de ne jamais faire ce qui est bas, de savoir se dominer, ne pas être esclave de ses désirs ni de ses passions. Attitude qui implique, en contrepartie, un certain mépris des femmes, vu au contraire comme s'abandonnant facilement aux émotions. En fait, le mépris aussi de tout ce qui n'est pas grec. Des barbares d'Asie, lascifs, qui ont la peau trop blanche parce qu'ils ne vont pas s'exercer au stade, qui ne sont pas prêts à endurer les souffrances nécessaires pour parvenir à cette maîtrise de soi. Autrement dit, Penté nourrit l'idée que le rôle d'un monarque, c'est de maintenir un ordre hiérarchique, où les hommes sont à leur place, à la place qui leur revient, et où les femmes restent à la maison, et où les étrangers ne sont pas admis. Et où l'Asie, l'Orient, passe pour être peuplé de gens efféminés, habitués à obéir aux ordres d'un tyran, alors que la Grèce est peuplée, elle, d'hommes libres. En face de Penté, ce jeune homme est d'une certaine façon son portrait et son double. Et son cousin Germain, de la même famille, tous deux natifs de Thèbes, même si l'un a derrière lui tout un passé de vagabond, ils ont le même âge. Si on enlevait à Penté cette espèce de carapace qu'il s'est façonné pour se sentir vraiment un homme, un aner, un homme qui sait ce qu'il se doit et ce qu'il doit à la communauté, toujours prêt, quand il le faut, à commander et à punir, alors on retrouverait exactement Dionysos. Eh bien, compte à rebours, c'est fini pour aujourd'hui, mais Dionysos, c'est pas du tout fini, puisqu'il y aura la suite de cette arrivée à Thèbes, parce qu'il se passe des choses assez étonnantes, vous le verrez. Donc, rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite des aventures de Dionysos. En attendant, portez-vous bien, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, c'était Marco.